Édition de Sénat 360 après l'adoption de la réforme ferroviaire par le Sénat. C'était il y a quelques minutes par 240 voix pour, contre 85. Les modifications apportées par la Haute Assemblée vont-elles permettre de mettre un terme à la grève qui a déjà coûté plus de 400 millions d'euros à la SNCF? Une commission mixte paritaire est attendue le 11 juin. Certains points restent encore en discussion. Députés et sénateurs devront donc trouver un compromis. On va en parler dans un instant. Je vais continuer d'analyser le vote du Sénat avec mes invités sur ce plateau. J'ai le plaisir d'accueillir Frédéric Marchand. Bonjour, merci d'être avec nous. Sénateur La République En Marche du Nord. Vous avez été très actif, chef de file du groupe La République En Marche sur ce débat. J'accueille également Monique Dabat. Bonjour, vous êtes déléguée syndicale Sudrail à la gare du Nord. Bienvenue à vous. Jean-François Longeau, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes sénateur Union Centriste du Doubs, secrétaire de la Commission de l'Aménagement du Territoire. Olivier Jacquin est également présent sur ce plateau. Sénateur socialiste de Meurthe-et-Moselle, vous étiez vous aussi le porte-parole du groupe sur cette réforme ferroviaire. Et Fanny Arave, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes administratrice UNSA ferroviaire à SNCF Réseau. Première question pour vous, Frédéric Marchand. Comment réagissez-vous à ce vote? Il était attendu par le Sénat de la réforme ferroviaire. Ça sent un peu la sortie de crise, selon vous?
C'est vrai, vous l'avez dit, le Sénat était attendu et le Sénat était au rendez-vous. La ministre l'a dit, un travail de co-construction. Et moi, pour paraphraser une célèbre formule, j'ai envie de dire finalement un petit pas pour l'homme, mais un grand bond pour le service public ferroviaire dans notre pays avec ce qui s'est passé aujourd'hui. Et je pense que le vote d'aujourd'hui fera date pour la suite.
Olivier Jacquin, le groupe socialiste a finalement voté contre. On sait qu'il y a eu un débat ce matin en groupe entre ceux qui voulaient s'abstenir sur cette réforme. C'est un vote contre, un vote de vigilance, avez-vous dit dans l'hémicycle. Qu'est-ce que ça veut dire?
Bien, nous sommes favorables à une réforme, mais pas engagée comme elle l'est là. Rappelons que s'il y a des progrès enregistrés au Sénat, c'est grâce à la pression des cheminots, c'est grâce à la pression du Parlement pour sortir de ce qui était des ordonnances, des propos très durs du Premier ministre envers les cheminots, qui ne méritaient pas ça. Ils sont sortis dans la rue, ils y sont toujours. Ce que j'observe, c'est un lien nouveau entre le groupe Les Républicains et le groupe En Marche, qui atteste clairement que M. Macron n'est ni de gauche, ni de gauche.
C'est pour ça que vous avez voté contre. Il y a aussi un positionnement politique du groupe socialiste.
Mais c'est un positionnement de fond sur la méthode d'ordonnance. Nous continuons sur un régime d'ordonnance. Plein de choses sont incertaines. On va vers une CMP sans aucun doute conclusive avec cette alliance nouvelle entre En Marche et les Républicains. Nous avons peur de régression, notamment dans le champ social. Et pareil, il ne faut pas donner toutes les clés au gouvernement, puisqu'il y a une réunion tripartite qui est annoncée après la CMP entre les syndicats, l'UTP, qui est donc le patronat ferroviaire, et le gouvernement. Et
on va voir effectivement...
cette vigilance, à ce moment précis, elle nous semble indispensable. Elle est ultra majoritaire chez nous.
Alors, Jean-François Longeau, le groupe centriste a soutenu cette réforme. Il y a eu aussi le travail fait par Hervé Maurey, le président de la commission d'aménagement du territoire. Il y avait eu des propositions de loi déjà adoptées en ce sens à l'unanimité au Sénat, on s'en souvient.
Oui, ça avait été adopté le 28 mars, date à laquelle j'étais le rapporteur de la proposition de loi Maurey-Nègre. Moi, pour rebondir sur les propos de M. Jacquin, je me réjouis vraiment, parce qu'à un certain moment, il faut... que l'on ait bien entendu nos convictions politiques. Mais sur des sujets aussi importants que celui-là, il faut vraiment qu'on puisse se rassembler. Et c'est ce qui nous a permis, à un moment donné, de trouver un certain nombre de sujets qui nous permettent effectivement d'aller de l'avant. Et je veux dire, sur le côté social, sur le côté des petites lignes, on en reparlera. Mais je crois que c'était un vrai effort. Alors effectivement, on peut toujours dire oui, mais on aurait préféré plus ça que ça, que ça, que ça. Mais je crois qu'on a sauvé effectivement l'essentiel. On a préparé cette ouverture. Parce que je rappellerai quand même que si on n'avait pas préparé cette ouverture, je pense que malheureusement, dans quelques années, la SNCF aurait beaucoup souffert, et les usagers aussi, et l'ensemble de la population.
Les yeux sont maintenant désormais tournés vers les syndicats. Que vont-ils faire? On a entendu Gérard Cornu dire il faut parfois, rappelant cette phrase de Maurice Sorez, savoir terminer une grève. Alors Monique Dabat, vous êtes déléguée syndicale Sudrail. Est-ce que ce vote du Sénat va permettre justement de mettre un terme à ce conflit?
Absolument pas. Alors vraiment,
pourquoi?
Absolument pas, parce que les raisons de la grève restent entières. C'est si on a décidé de se mettre en grève contre le pacte ferroviaire, c'est parce que c'était une attaque frontale contre nos conditions de travail, contre nos conditions de vie, contre nos conditions de salaire. Absolument rien n'a été modifié dans le texte à ce sujet.
Aucune garantie sociale, aucune. Même après les modifications du Sénat.
Les modifications, sur le plan social, les seules choses qui ont été mises en avant, c'est le volontariat. Mais déjà, c'était inscrit dans le rapport Spinetta, donc c'est absolument rien de nouveau. Et puis, quel patron aurait envie de prendre prioritairement dans une société ceux qui n'ont pas envie de venir? Bah évidemment que c'est les volontaires qui iront en premier.
Mais le problème, c'est le caractère incessible qui a été inscrit dans la loi, ce n'était pas prévu au début. Là, c'était un garde-fou contre tout risque de privatisation. Là aussi, ça ne...
Non, parce que contre tout risque de privatisation, mais là, le problème, ce n'est même pas la privatisation de la SNCF, c'est qu'elle est donnée par petits bouts à des entreprises privées, c'est par petits bouts. Donc peut-être qu'elle ne sera pas privatisée à la fin, mais peut-être que la fin, ça sera plus que la direction générale de la SNCF qui sera nationalisée. Et puis, il n'y aura que des petits bouts privatisés tout autour.
Donc pour l'instant, le mot d'ordre, c'est vous continuez la grève jusqu'au 12 juin, ça a été rappelé.
Jusqu'au 12 juin, c'est vous qui donner la date. Moi, pour nous, il y a
c'est
pas
la journée
date,
sans cheminot, le 12
voilà,
juin.
Mais c'est pas une date de fin.
En tout cas, c'est la prochaine étape. Fanny Arave, quelle est la position de l'UNSA après ce vote du Sénat? Est-ce que vous, au contraire, vous saluez les avancées qui ont pu être votées par la Haute Assemblée?
Alors, il y a deux registres. Il y a le registre législatif, où effectivement, par rapport au texte initial, il y a eu de véritables avancées et on sait en tenir compte. Ensuite, il y a quand même un problème de fond, qui est l'esprit de la loi, l'esprit de ce texte et l'esprit de la réforme ferroviaire. Où là, par contre, c'est vrai que nous avons de grandes interrogations sur le pourquoi de la fin du statut. À part le trophée de chasse dont on parle tant, il n'y a absolument aucun intérêt économique. Il y a l'ouverture de la concurrence qui est avancée comme étant la solution miracle. Nous, on aimerait qu'il y ait de véritables études d'impact, qu'il y ait quand même une réflexion peut-être un peu plus fine qui soit avancée pour voir là, elle peut être peut-être intéressante, je ne sais pas, je doute un peu, mais pourquoi pas. Mais qu'on ait quand même une vision un peu objectivée et rationnelle sur ce sujet. Donc, on a la transformation d'entreprise en SA, qui est même, à mon sens, un non-sens économique, notamment pour Réseau. Donc, sur ce sujet, effectivement, du sens donné, nous sommes toujours quand même dans un état un petit peu d'expectative, de non-compréhension. On ne voit pas comment cette réforme va améliorer véritablement le ferroviaire, parce que l'idée quand même qui est avancée, c'est d'avoir un ferroviaire qui marche mieux pour tout le monde. Et là, cette réforme-là n'avance aucune solution véritable à ce sujet-là. Donc, il y a des avancées sur le terrain législatif par rapport à un texte initial, mais comment ça s'inscrit dans un schéma un peu plus général? Nous avons des interrogations. Donc, nous attendons effectivement de voir le texte final suite à la CMP, la commission mixte paritaire. Nous attendons aussi également beaucoup de voir comment va se passer donc la table ronde tripartite et de quel format. Et est-ce que c'est quelque chose de conclusif ou est-ce qu'au contraire, on est dans une nouvelle dynamique, on poursuit vers une véritable négociation et voir comment va se poursuivre cette négociation à travers la convention collective.
Frédéric Marchand, vous aussi, vous demandez au syndicat de terminer, d'arrêter ce conflit après le vote du Sénat?
Moi, je n'ai pas d'ordre à donner aux organisations syndicales. Je constate effectivement que suite à la discussion à l'Assemblée nationale, suite à la discussion au Sénat, il y a un certain nombre d'avancées sociales qui ont été apportées et qui vont dans le sens des discussions qui ont été menées avec les organisations syndicales réformistes et que, effectivement, je ne vais pas paraphraser à mon tour Maurice Thorez, mais je pense que, comme ça a été dit par beaucoup, les Français commencent à en avoir assez de cette situation qui est aussi un petit peu difficile et compliquée pour notre économie.
Mais vous comprenez quand Fanny Arave dit on ne comprend pas le sens finalement en général de cette réforme? Est-ce que vous comprenez sa position?
Je comprends que chacun soit dans son rôle. J'ai bien entendu ce que nous a dit Olivier Jacquin sur la position du groupe socialiste, mais moi j'ai fait un peu de mathématiques quand j'étais jeune et je constate que certains membres du groupe socialiste se sont abstenus sur ce vote. Donc, ce qui veut dire que du côté du groupe socialiste, il n'y a pas forcément une unité de pensée sur cette réforme ferroviaire. Pour le reste, je comprends les interrogations, les inquiétudes du monde cheminot, mais le sens de cette réforme, fondamentalement, c'est que l'ouverture à la concurrence arrive et que n'allons pas répéter ce qui s'est passé avec le fret où nous n'avons rien préparé, nous n'avons rien anticipé et ça a été une catastrophe. Le gouvernement a pris ses responsabilités, ça a été salué sans qu'il n'y ait aucune collusion politique. Je pense aussi qu'il faut arrêter avec les poncifs et les caricatures. Les Français en ont marre et les propos que j'ai entendus sont une illustration.
Olivier Jacquin et Jean-François Longeau après.
Mais non, je pense que les Français vont être un peu déçus. J'ai lu un sondage ce week-end qui dit que 58% des Français sont favorables à la réforme. Je crois qu'ils entendent par réforme la fin du statut des cheminots. On est bien dans le symbole. Le statut des cheminots doit être réformé. On n'arrive pas à recruter à SNCF Réseau et SNCF Mobilité.
Donc vous êtes d'accord pour réformer ce statut?
Si le statut était si génial que ça, il n'y aurait pas des difficultés comme ça. Donc il y a un vaste chantier qui est en cours. Le mythe du statut, c'est fini. Ils ne sont plus du tout dans les conditions imaginées. Et le symbole, c'est ça. C'est que derrière la réforme du rail, dont les Français vont être déçus, parce que le temps ferroviaire est très très long, et dans 4-5 ans, ils n'auront pas vu grand-chose de la réforme, on joue plus effectivement d'autres réformes sur le rapport des Français au travail, au service public. La future réforme des retraites est dans le viseur et c'est une certaine relation au corps social. Notre réaction, elle est là. Parce qu'il n'y a pas de projet industriel pour le ferroviaire. Les Français croient qu'au lendemain du vote, les trains vont mieux marcher. Non, on n'a pas parlé du fret, par exemple. Le fret, ça utilise les mêmes voies que les trains de voyageurs. On ne sait pas comment discriminer positivement le ferroviaire par rapport à la route et par rapport à l'avion.
Après cette réforme, on sait qu'il y aura aussi après une loi sur la mobilité qui est attendue également.
Mais moi, je crois que si on
met à l'envers, en plus.
Moi, je crois que si on met
la loi sur les mobilités avant.
Je crois que si on met tout en œuvre pour que ça ne marche pas, effectivement, on pourra se targuer que ça ne fonctionne pas. Mais l'objectif, enfin, qui est le mien, qui est celui du groupe de l'Union Centriste, c'est effectivement que ça marche. Et on a essayé de mettre tout en œuvre pour sauvegarder les petites lignes, pour l'aménagement du territoire, qui est l'ADN d'ailleurs du Sénat, c'est le territoire. On a essayé de mettre un certain nombre de choses en place. On a aussi avancé sur le statut social. Il y a un certain nombre de propositions. Je crois que maintenant, où on tourne le dos à cette loi, en se disant, pourvu que ça ne marche pas, puis pour dire, vous avez vu, ça ne marche pas, et donc on avait raison. Mais je crois que ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qu'attendent les Français. On a quand même, dans ce projet, le gouvernement, ce qui ne s'était jamais vu auparavant. Jamais. Et je ne suis pas en marche. A quand même indiqué qu'il prendrait en charge les 35 milliards sur les 46 milliards de dette.
C'est quand même
quelque chose, c'est quand même quelque chose d'important et c'est un tournant. Alors je crois que maintenant, il faut que chacun fasse un petit effort, qu'on essaie d'avancer, parce que je crois, comme l'a dit M. Marchand tout à l'heure, on n'a pas préparé l'ouverture au fret. Et aujourd'hui, on dit ça ne marche pas. Eh bien, on a préparé l'ouverture à la concurrence pour le ferroviaire, ferroviaire, et je suis persuadé que ça va marcher, mais il faut de la volonté, et il faut du courage, et il faut aussi tout mettre en œuvre pour que tout fonctionne.
Aucun apport du Sénat ne trouve grâce à vos yeux, si je résume.
Absolument aucun. Et je voudrais revenir justement sur cette histoire de dette, parce que là, c'est vraiment se moquer du monde. Ça fait des années que Bercy sait qu'il sera obligé de reprendre la dette de Réseau, et pas parce qu'il y avait une histoire de pacte ferroviaire en prévision ou pas. C'est complètement indépendant du pacte ferroviaire. C'est simplement parce que dès l'instant qu'une entreprise dépend à plus de 50% des financements de l'État, l'État doit reprendre la dette et doit être considéré comme une administration publique.
En tous les cas, c'est à mettre au crédit du gouvernement actuel. Le précédent ne l'avait pas fait.
Parce qu'on n'y était pas. Longtemps. Parce que c'est jusqu'à l'année dernière encore, ces réseaux étaient se finançaient par ces péages à 52%. Donc il n'y avait aucune raison que ça se fasse. Cette année, ça risque de passer en dessous des 50%. Donc cette année ou au pire, l'année prochaine, c'était une obligation européenne, c'est une règle européenne, personne n'invente rien là-dessus, c'est une règle. Et l'État avait l'obligation de reprendre cette dette. Sauf que là, on nous la présente comme un cadeau qui serait fait extraordinaire à la SNCF et aux cheminots. Et en échange de ça, il faudrait qu'on recule sur nos conditions de travail, de vie, de salaire, etc. Il faudrait qu'on soit éternellement reconnaissant, alors que cette dette, ce n'est pas la nôtre.
Mais les cheminots n'en sont pas responsables. Mais aussi des investissements qui vont être augmentés, des investissements prévus supplémentaires, justement.
Mais les investissements, là, on voit pourquoi ils les font, les investissements. Ils les font sur toutes les lignes qui veulent privatiser. C'est la ligne H en Île-de-France. Il y a des travaux colossaux qui sont faits. Il y a des gares qui ont été refaites, des trains tout neufs qui ont été achetés. C'est dans plein de lignes, il est prévu de refaire des gares pour pouvoir les donner toutes belles, toutes neuves aux sociétés privées qui les reprendront. Ce n'est pas des cadeaux pour les cheminots, ça. Et nous, on n'a absolument pas accepté de reculer sur quoi que ce soit sous ce prétexte-là.
Vous avez un regard un peu différent sur cette question de la reprise de la dette. C'était quand même un geste fort de la part du gouvernement.
Un geste fort, mais qui était un petit peu obligé, outre la question effectivement des équilibres de 50%, il y a aussi la question du passage en SA, où j'ai parfois l'impression que c'est devenu un peu le bout de scotch qui colle à la semelle quand même, ce passage en SA de SNCF Réseau. Donc, à partir du moment où on passait en SA, il y a forcément un équilibre entre l'actif-passif, hein, l'EBITDA et la dette, donc il y avait une obligation de reprendre une partie de la dette. Là, c'est juridique, c'est financier, il n'y a pas d'autre nature de geste. Moi, ce qui m'inquiète, par contre, aujourd'hui, c'est le différentiel de dette qui reste toujours dans les comptes, les impacts du passage en SA sur les taux d'intérêt, sur une multitude de contrats, sur de la ingénierie financière qui existe aujourd'hui, qui sont en train de se faire. Les études d'impact sont aujourd'hui en train de se faire. Donc, moi, je trouve ça très, très inquiétant. Donc, on a quand même des effets négatifs qui sont liés et une trajectoire financière. Vous parliez de 200 millions, mais il y a eu plusieurs rapports qui ont été faits, suite au rapport Rivier et suite. On indiquait que si on voulait maintenir le réseau, on était quand même plus proche des 4 milliards que ce qu'on va avoir aujourd'hui. Donc, le fait d'avoir investissement complémentaire, c'est important. C'est effectivement important, c'est même primordial. Est-ce que ça sera suffisant pour remettre à niveau, ne serait-ce que la partie substantielle du réseau, c'est à voir.
Et moi, 200 millions d'euros pour la maintenance.
La rénovation, maintenance. Alors, au début, c'était juste la rénovation. Maintenant, ça va tout faire. Ça va également faire la signalisation, RTMS, c'est le paquet complet. Donc, est-ce que ça sera suffisant? J'ai quelques inquiétudes. Et le différentiel se fait en termes de productivité. Donc, productivité industrielle et productivité ressources humaines. Donc là aussi, je dis attention, parce qu'on ne peut pas tout demander à la productivité. Parce qu'à un moment, ce sont des hommes en moins. Des hommes en moins, ce sont des chantiers qui ne se font pas. Les chantiers qui ne se font pas, c'est des lignes qui ne sont plus circulées.
Olivier Jacquin.
Moi, je partage totalement ce que vous venez de dire, Fanny. On a légiféré au doigt mouillé sans avoir d'études d'impact sur les décisions que nous prenions. On y va au pifomètre sur des sommes absolument considérables. 35 milliards, ça impressionne. Quand on est au bistrot, on se dit « Waouh, 35 milliards !» Mais traduit dans un prochain contrat de performance, on ne sait pas ce que ça donne. Si, sous prétexte de désendettement, le gouvernement retire d'autres sommes parce que les mouvements financiers entre l'État et SNCF sont très nombreux. Aujourd'hui, on ne sait rien et je ne vois pas, moi, ce nouveau projet industriel qui va faire de nous la Suisse ferroviaire de demain. On n'a jamais parlé de ce modèle ferroviaire qui est extrêmement intéressant à l'heure des mobilités, mais la Suisse, comme le Japon, là, il y a deux États stratèges qui voient loin, qui investissent beaucoup dans le réseau. Les sommes actuelles, même si elles sont impressionnantes, a priori, ne sont pas exceptionnelles vu les coûts de remise en état du réseau et de développement qu'il y a devant nous.
Frédéric Marchand, elle a été mal préparée, cette réforme ?
Je ne pense pas qu'elle ait été mal préparée. Alors j'entends effectivement celles et ceux qui poussent des cris d'orfraie, mais pour certains c'est une habitude. Non, elle n'a pas été préparée, bien au contraire.
Comme ça,
puisque effectivement on est dans un travail de co-construction. Je le dis, je le répète, certains nous ont dit que le débat allait être confisqué par le biais des ordonnances. On a vu avec tout ce qui s'est passé au Sénat, et on a quand même passé quelques jours et quelques nuits au Sénat à échanger, avec tout le travail qui a été fait
25 heures de débat en séance,
plus
sans
qu'on
parler,
oublie, qu'on oublie surtout toutes les rencontres préalables qui se sont déroulées. Vraiment un travail de co-construction qui me fait dire que quand j'entends « doigts mouillés », quand on va au bistrot, ben voilà, c'est une réforme qui mérite mieux quand même que certains lieux communs qu'on a pu entendre et qu'on continue d'entendre.
Alors, vous réagissez, Monique Dabaz, à ces propos de Claude Malhuret. 2018 ne sera pas 1995. C'est vrai qu'au début, on redoutait des blocages comme la France a pu eh bien, en connaître en 1995.
Oui, bah, c'est une facilité d'essayer de calquer les mouvements les uns sur les autres et puis après de savoir si c'est le même, pas le même. Enfin bon, ça n'a pas un
Il n'y a pas eu de convergence des luttes, nous dit Claude Malhuret.
C'est des luttes, non. Il faudrait qu'il y ait plein de luttes pour qu'elles convergent. Mais par contre, il y a une convergence des intérêts des travailleurs. Parce que là, ce qui se passe quand même en ce moment, c'est un mouvement d'attaque contre l'ensemble des travailleurs. Macron, il a voulu faire la démonstration qu'il pouvait faire reculer les cheminots, et en tout cas, pour l'instant, c'est pas fait. Mais sur leurs conditions de vie, de travail, de salaire, etc. Mais que
il n'y a pas d'érosion du mouvement,
ça,
Monique Dabat,
c'était
malgré
pour pouvoir
tout,
s'attaquer à l'ensemble des travailleurs. Alors sur l'érosion, c'est la tarte à la crème quand même depuis le début de la grève. C'est pendant deux mois, on nous a dit ça s'effiloche. Maintenant, on nous dit ça se termine. Sauf que la grève continue. Elle est toujours là. Sur les chiffres du mois de mai, tout ce qui a été dit et redit, c'est que là, il n'y avait pas d'érosion. Il ne bougeait pas, ces chiffres-là. La grève, elle continue. Il y en a qui espèrent que ça pourra s'arrêter rapidement. Mais contrairement à ce qui est dit quand même, c'est sur les voyageurs qu'on en marre, etc. Mais nous, chaque fois qu'on va discuter avec eux dans les gares, alors qu'ils justement ils sont en train d'attendre leur train qu'ils n'ont pas, mais autant au début, évidemment, ils nous disent, mais nous, ça nous gêne quand même, on est impacté par ça. Ouais. Mais sauf que dès qu'on continue...
Des Français, des usagers, mais contents.
Dès qu'on continue quand même, ils sont d'accord sur les raisons de la grève. Mmh. Parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils peuvent être les prochains visés par les attaques. Parce que ça vise tous les travailleurs, ces attaques-là.
Fanny Arabe, cette grève, alors, on parlait de cette échéance du 12 juin. Il y a les vacances scolaires qui approchent. Est-ce qu'il va y avoir peut-être l'UNSA, la CFDT, les syndicats plus réformistes qui vont proposer une solution de sortie de crise?
Écoutez, pour l'instant, nous, on est dans un mouvement unitaire. On attend de voir le texte qui va sortir de la CMP. On est extrêmement attentif, comme j'ai dit tout à l'heure, à quelle formule sera associée donc, à la table ronde tripartite. À ce moment-là, on fera un peu le bilan des avancées, de où on en est et de quelles seront les intentions du gouvernement sur l'accompagnement de la convention collective et des négociations qui vont se faire ensuite à la SNCF. Et ça, c'est quelque chose pour nous de primordial.
Mmh. Mais dans quelles conditions le dialogue social va pouvoir reprendre après plusieurs semaines de grève? Il est fragilisé, ça va être compliqué?
Nous sommes dans une situation délicate parce que vous parliez de 95. En jours cumulés, on a dépassé 95. Mais plus que ça, moi, quand je vois les messages, quand je vois l'état de l'entreprise SNCF aujourd'hui, nous sommes dans une situation sociale particulièrement difficile. Les contestations par rapport à cette réforme, c'est de la tête aux pieds. Pas forcément pour les mêmes sujets, d'autres ce sera plus sur le statut, mais à la tête, on a aussi des gens qui s'intéressent énormément sur justement le pourquoi de cette réforme. Hein, si c'est pas que c'est une réforme qui est faite pour casser effectivement une belle entreprise, mais pas forcément pour la transformer, pour la moderniser, on ne voit pas véritablement quelle est la ligne qui est projetée.
Parce que ça n'a pas changé de position, parce qu'on vous a reçu plusieurs fois sur ce plateau, Fanny Arabe, on avait le sentiment que sur le sens de la réforme, vous étiez plutôt favorable. Non ?
À la fin du statut ?
Non, mais sur l'esprit de la réforme, enfin je...
Non, bien sûr, je pense que toutes les OS, organisations syndicales, ont en premier tête de chapitre de leur congrès, en mission de congrès, la défense du statut. Ça fait partie des fondamentaux. Parce que quelque chose que j'ai déjà dit par ailleurs, c'est que le statut, c'est pas seulement une somme d'avantages, d'inconvénients, ça va au-delà. C'est un symbole de sens donné au travail, de ce à quoi on appartient. On appartient à une entreprise qui est au service public, qui rend un service public. C'est tout un ensemble, une collectivité. Donc là, on s'attaque non seulement à des avantages ou à ceci ou à cela, on s'attache à une image, à un sens donné au travail, justement. Et c'est là où les choses sont très, très difficiles. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a une entreprise. Effectivement, renouer le dialogue, ça va être très, très difficile.
Frédéric Marchand, on sait que la prochaine étape parlementaire, cette commission mixte paritaire, c'est une réunion entre députés et sénateurs le 11 juin, lundi prochain, ici au Sénat à 14h30. On sait qu'il y a des points de désaccord avec les députés. Alors, est-ce que vous avez bon espoir de trouver un terrain d'entente?
J'ai bon espoir. Donc, j'ai échangé moi longuement avec Jean-Baptiste Djebbari, qui est le rapporteur pour l'Assemblée nationale. Et il y a vraiment une volonté des deux chambres, on l'a entendu de la bouche de Gérard Cornu, une volonté du gouvernement qui a été réaffichée par Elisabeth Borne, qu'on puisse effectivement trouver la meilleure solution pour avoir l'adoption d'un texte qui soit le meilleur possible pour préparer la suite.
Mmh. Jacquin, on a évoqué cette commission mixte paritaire, c'est la prochaine étape lundi prochain. Il y a quelques désaccords, notamment techniques avec les députés. Vous aviez dit que c'était un vote de vigilance, vote contre des socialistes. Qu'attendez-vous justement de cette commission mixte paritaire?
Mais qu'il n'y ait pas de régression. L'accord est tellement fort entre Les Républicains et En Marche que cette CMP va être conclusive. Nous, on va vouloir veiller à ça, qu'il n'y ait pas de régression. Je voudrais réagir au propos de M. Maluret qui dit que c'est le premier gouvernement qui fait quelque chose. C'est vraiment exagéré. Il ne faut vraiment pas connaître le dossier ferroviaire pour voir l'importance de la réforme de 2014. Alors vous allez me dire la dette, pourquoi n'ont-ils pas désendetté à l'époque? Parce qu'ils désendettaient le pays et ce fameux seuil de 3% n'a été atteint que fin 2017. Donc je l'ai dit à la ministre, vous pouvez désendetter. SNCF parce que le pays est déjà partiellement désendetté. Je pense qu'on va reprendre date sur cette réforme qui est incomplète et je crains que malheureusement, alors que le temps ferroviaire est très long, qu'il va falloir dans quelques années revenir sur ce texte pour le compléter, le système ferroviaire va rester bancal. On n'a pas un vrai nouveau modèle ferroviaire et j'espère que la grève va s'arrêter au plus vite parce qu'effectivement, il y a certaines activités économiques et puis des voyageurs
qui sont extrêmement... C'est un appel au syndicat, vous aussi ? C'est du coup un appel au syndicat à mettre
Non, c'est plutôt au gouvernement. Oui. Moi, je suis contre le dumping social. Oui. On n'est pas sujet ni à délocalisation, ni à la concurrence mondialisée. Pourquoi tire-t-on les choses vers le bas ? Pour se tirer des balles dans le pied ? Pourquoi ces différences de statut ? Regardez ce qui était fait dans le transport routier. Mais c'est une catastrophe. Le transport routier, 90% des entreprises qui font du transport international ne sont plus françaises. On a dérégulé, on a des gars qui ne sont pas payés dans les camions. Je ne suis pas sûr qu'on grandit comme ça. Il ne faut pas le faire pour les activités non délocalisables qui sont en France. Ça sert à rien, c'est inutile. Et les cheminots ne sont pas les privilégiés qu'on dit. Il faut aller voir sur le terrain la réalité.
Jean-François Longe, je reçois la commission mixte paritaire sur ces quelques points de désaccord, quelques points techniques, notamment peut-être sur les régions et l'aménagement du territoire. Est-ce que vous craignez que certains députés justement reviennent sur les apports du Sénat ?
Non, moi je ne crois pas, parce que j'espère vraiment, je le dis avec beaucoup d'énergie, puis vraiment beaucoup de volonté, j'espère que cette CMP sera conclusive, parce que c'est important. M. Jacquin vient de dire, on peut, même si on ne partage pas les mêmes points de vue, on ne peut plus attendre maintenant. On ne peut pas continuer dans cette situation, c'est impossible. Et puis pour revenir à ce que disait la représentante de Sudrail, jamais on a dit que la dette de la SNCF, et moi je ne l'ai pas entendu, jamais j'ai entendu un homme politique dire que la dette de la SNCF, c'était la dette des cheminots. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Moi je ne l'ai pas dit. Moi je ne l'ai jamais dit. Et je pense que c'est la dette, je l'ai encore dit dans l'hémicycle, c'est effectivement la dette des élus, la dette des citoyens, la dette de nos territoires, parce que quand on a décidé à un moment donné de se dire la dette de tous les gouvernements, oui, effectivement, parce que quand on a décidé à un moment donné de vouloir une ligne LGV ici, une ligne ici et une ligne là, c'est quand même bien été décidé par le Parlement. Après, c'est vrai qu'on a fait porter le chapeau à SNCF Réseau, mais je crois que c'est...
L'État va le reprendre
et il faut pas, effectivement.
Et les contribuables supporteront cette reprise de la dette. C'est aussi un risque.
Je tiens à clarifier les choses et à dire que la dette, ce n'est pas la dette des cheminots, c'est la dette de l'ensemble de nos concitoyens, de l'ensemble des élus, de l'ensemble des gouvernements. Et qu'est-ce qu'on aurait dit si on n'avait fait aucun investissement, si on n'avait créé aucune nouvelle ligne TGV ? On aurait dit, effectivement, on n'aurait pas de dette, mais on aurait dit, on n'a pas aménagé notre territoire. Voilà, je crois qu'on a toujours un bon argument quand on n'est pas d'accord sur quelque chose, quand on dit qu'on veut tuer son chien, on dit qu'il a l'arrache.
Fanny Arabe et Monique Dabat, justement sur cette CMP, vous allez suivre les débats attentivement aussi, première question pour vous, Fanny Arabe.
Oui, tout à fait, parce qu'on vous réveillait effectivement à comment on va évoluer ou pas le texte. Hein. Nous avons connu par le passé parfois des amendements à 1h du matin, donc ça nous oblige à une certaine vigilance. Donc on va être attentif à l'évolution sur effectivement les garanties sociales, mais aussi sur les aspects d'aménagement du territoire, parce que cela nous importe aussi, d'avoir un réseau qui soit existant, qui soit accessible physiquement, mais qui soit aussi accessible économiquement à tous. Et pour l'instant, c'est vrai que le texte n'indique pas grand-chose sur ce sujet-là, mais c'est un sujet qui nous préoccupe également, parce qu'il en va effectivement de l'équilibre, de la cohésion territoriale et de la cohésion sociale.
Monique Dabat, vous suivrez également l'évolution de ce texte lors de son examen en commission mixte paritaire ?
Oui, mais enfin, comme pour nous, il n'a pas évolué de toute façon. C'est, on n'attend rien de cette commission. Et nous, effectivement, on continue à dire que c'est que par la grève qu'on pourra changer les choses. C'est des lois votées, promulguées et annulées. Il y en a eu avant. C'est pourquoi pas cette fois-ci. Mais non, on ne pense pas qu'il sortira quelque chose de ni de positif ni de plus négatif de cette commission-là, parce qu'on ne voit vraiment pas qu'est-ce qu'il y a eu d'amélioré dans ce texte. Ce n'est pas changer 3 virgules qui risquait de nous faire changer d'opinion.
Le Sénat a changé 3 virgules.
Je pense que le Sénat a changé plus 3 virgules. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on voit bien qu'entre organisations syndicales, on n'est pas forcément sur la même longueur d'onde.
Donc, un début de fissure, peut-être, du mouvement syndical. Tania Rave.
Non, pas trop vite en besogne. Ça fait un ou deux mois.
Non, non, mais je vous écoute attentivement toutes les deux. Je vois, vous ne dites pas la même chose.
Qu'on nous parle. Non, ben ça depuis le début.
Oui, non.
C'est tout l'intérêt de la terre syndicale.
Exactement.
C'est le dire la même chose.
Le débat entre nous, et nous avons toujours respecté nos.
Ah non, pas du tout.
Toujours respecté nos différences. Mais par contre, il est vrai que nous sommes tous dans une attention particulière. Donc l'unité syndicale est là, il y a de nouvelles réunions. Je pense que nous partageons, que ce soit les têtes des organisations syndicales, mais aussi l'ensemble de la communauté cheminote, et je l'ai dit, élargie au-delà même des syndicats, bien largement au-delà des syndicats. Nous avons une attention particulière sur l'avenir de la SNCF en tant qu'entreprise nationale.